l'anatomie d'une promesse.
Alors que les armes grondent au Moyen-Orient, une évidence s'impose, la guerre n'a jamais vraiment disparu. Et avec elle, une question essentielle refait surface, qu'est-ce que la paix au fond ? Elle est une construction fragile, toujours menacée, toujours à réinventer. Nous l'avions oubliée, elle est précieuse.
Thomas Negaroff.
6 grandes dates, 6 épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec le spécialiste des relations internationales, Bertrand Badi.
Épisode 3. 1928, la guerre illégale.
Les hautes parties contractantes déclarent solennellement au nom de leurs peuples respectifs qu'elles condamnent le retour à la guerre pour le règlement des différends internationaux et y renoncent en tant qu'instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles. Extrait de l'article 1er du pacte dit Briand-Kellogg, le 27 août 1928. Alors là, beaucoup de gens qui nous écoutent vont apprendre qu'à un moment donné de l'entre-deux-guerres qui pourtant prépare la Seconde Guerre mondiale, des diplomates se sont mis autour d'une table pour déclarer la guerre illégale. Dites-moi un peu ce qui se passe à ce moment-là, et puis on reviendra un petit peu dans l'histoire, bien sûr, dans le passé.
Alors, vous avez raison, c'est une césure. Sur le plan purement philosophique, il y avait des prémices. L'abbé de Saint-Pierre qui a inventé l'idée de paix perpétuelle.
Avant Kant.
Kant lui a piqué. Et cet ouvrage très important d'Emmanuel Kant, tout à fait à la fin du XVIIIe siècle, mais on restait au niveau philosophique. Là, en 1928, effectivement, deux personnages, Aristide Briand et le secrétaire d'État américain Kellogg, se réunissent. Alors, il faut voir dans quel contexte.
Oui, c'est très important.
Le contexte, c'est le seul moment où on a un sentiment de détente en Europe depuis bien longtemps. C'est-à-dire, on commence à s'éloigner des 16 millions de morts de la Première Guerre mondiale, et on est encore dans une Allemagne qui est demanderesse de paix, c'est Stresemann qui est aux commandes, encore Gustav Stresemann, de la diplomatie allemande, et on est dans l'ambiance d'une SDN qui a été créée 9 ans auparavant et qui est encore porteuse d'illusions. Un homme assez remarquable, Aristide Briand, que je voudrais associer à un autre qui a joué un rôle formidable dans la paix, qui est Léon Bourgeois, qui était le premier président de la Société des Nations.
La Société des Nations qui avait posé comme principe fondateur l'arbitrage.
Voilà,
donc
absolument. C'était
l'idée, s'il y a un problème entre deux nations, vous voyez, souveraineté, on en parlait dans l'épisode d'avant, s'il y a un problème de souveraineté entre deux pays, il y a un arbitre qui va dire, un peu comme la VAR au foot aujourd'hui, la faute, elle est sur lui, et donc il n'y a pas de guerre, il y a éventuellement punition ou compensation.
La guerre n'est plus universellement fonctionnelle. Voilà. Il y a plus fort l'arbitrage. Et l'arbitrage, c'est les conférences de La Haye tenues à la fin du 19e siècle. Et alors, il y a une rencontre de volonté, mais de volonté incertaine, parce que les États-Unis sont dans une culture encore plus souverainiste que les Européens. D'ailleurs, c'est ce qui a fait le loupé de la Société des Nations et de l'Organisation des Nations Unies. C'est-à-dire le multilatéralisme ne doit en aucun cas remettre directement en question le principe de souveraineté.
Ce qui a d'ailleurs conduit à ce paradoxe que la SDN est proposée par un président américain, le président Wilson, mais rejetée par le Congrès des États-Unis.
Absolument.
Qui fait que les États-Unis ne sont pas dans la SDN.
Et parce que Wilson s'en doutait et il considère que finalement il n'a pas encore suffisamment défendu le principe de souveraineté en prof de droit constitutionnel qu'il était pour faire admettre ce pacte à son Congrès. Bon, et donc dans ce contexte-là, finalement les deux hommes arrivent à se convaincre de franchir le pas. C'est-à-dire de se dire, mais il peut y avoir un autre ressort des relations internationales. La guerre, ça nous a quand même coûté très cher en vie humaine,
en destruction.
En destruction, on est à l'époque encore à peine 10 ans de la fin premier conflit mondial. Et donc, il y a cette volonté de retourner le monde. C'est-à-dire, cette fois-ci, on peut faire la paix, ériger la paix en principe fondamental des relations internationales. Alors,
Mais pardon, peut-on déclarer la paix comme on déclare la guerre ?
C'est ce que symboliquement ils ont essayé de faire. Et quand même, ce qu'il faut dire, Parce qu'on parle du pacte Briand-Kellogg, on se dit, tiens, deux hommes de bonne volonté. Mais le monde quasi entier l'a suivi, a adhéré à ce pacte. Et c'est vrai de tous les continents. Alors, il y a un continent qui est un peu resté à la traîne, qui est le continent latino-américain, puisque le Brésil est un des rares pays, par exemple, qui n'est pas souscrit au pacte Briand-Kellogg. Il y en a quelques autres en Amérique latine. Et ils vont immédiatement compenser à travers le pacte Lamas, qui était un ministre des Affaires étrangères d'Argentine. Il s'est fait, en quelque sorte, l'Aristide Briand latino. Donc, on était dans une période quasi consensuel. Le pacte Briand-Kellogg, qu'on présente aujourd'hui comme une anecdote.
Oui, c'est vrai.
Imaginez le 20h de la télévision à l'époque, qui présentait en premier titre le fait que tous les États du monde, alors il y en avait beaucoup moins que maintenant, c'était avant la décolonisation, souscrivent à cette idée rendant la guerre illégale. Imaginez le choc des consciences.
Ouais.
Moi, j'appartiens à une famille où on considérait que faire la guerre, c'était le devoir intime, c'était l'accomplissement de l'honneur des individus. Et donc, tout d'un coup, on va leur dire, ben non, maintenant, votre honneur, vous allez le mettre dans la paix.
Oui.
Et ça, c'est un choc culturel, c'est un renversement, mais, et c'est peut-être pour ça que, très vite, l'épisode est redevenu anecdote, dès le lendemain ou le surlendemain, on a vu fleurir de nouvelles guerres, et c'en était terminé. On s'est relancé dans la bataille des réparations qui n'était pas terminée avec l'Allemagne, et on sait où la bataille des réparations nous a amenés. Et puis, on va voir l'épisode de l'Éthiopie, et puis on va voir l'épisode de la Mandchourie, et on va voir peu à peu le mécanisme conduisant à la Seconde Guerre mondiale s'enclencher.
C'est et les États-Unis se refermant sur eux-mêmes après la crise de 1929.
Absolument, absolument. Mais j'insiste beaucoup là-dessus parce que je pense que tous nos échanges depuis le début de cette série montrent que finalement, dès l'empereur Auguste, on croyait que l'affaire était faite. C'est autour de la guerre et de la force, finalement, que se construisait l'ordre international. Et qu'après, c'était du replâtrage.
Ouais.
Là, pour la première fois, on a le culot de dire le contraire.
J'aimerais quand même qu'on revienne aussi dans l'entre-deux-guerres, entre les deux guerres mondiales, sur un mouvement qui a trait à la paix, mais qui a aussi conduit à la guerre, ce qui est le paradoxe du temps, que la paix peut conduire à la guerre, qui est le mouvement de l'ultra-pacifisme, notamment en France. Racontez-nous un peu ce qu'est cet ultra-pacifisme et en quoi, malgré toutes les bonnes intentions qui animaient ceux qui le suivaient, eh bien, ça a pu conduire aussi au pire. C'est une question importante parce qu'on l'entend beaucoup aujourd'hui quand on parle de l'esprit munichois, c'est des références qu'on entend dans l'actualité. J'aimerais qu'on y revienne pour comprendre d'où elles viennent.
Alors ça, c'est le genre de sujet qu'on n'aime pas tirer à l'examen, hein, parce que c'est un sujet extrêmement compliqué, mais vous avez tout à fait raison, il est tout à fait central, et il montre la terrible ambiguïté ambiante. Parce que les mouvements pacifistes ont tous, dans leur très grande variété, trouvé leur dénominateur commun dans l'idée de « il faut à tout prix éviter la guerre ».
Oui.
Et lorsqu'on dit ça, et moi qui suis à mon modeste niveau, vraiment un militant de la paix, je ne me sens pas un pacifiste. Pourquoi ? Parce que je me dis des choses très simples. Si je vivais en 1940, ça aurait signifié quoi en France la paix à tout prix ? On sait ce à quoi ça a conduit. Ça a conduit à la collaboration. Et puis, si j'étais algérien, malgache, camerounais dans les années 50, est-ce que j'aurais été pour la paix à tout prix ? Accepter la soumission définitive, en quelque sorte. Et derrière ça, on s'aperçoit de deux choses absolument capitales. Là, en ce moment, on vit une minute vraiment essentielle de nos échanges. On s'aperçoit du coup que la paix, c'est pas l'envers de la guerre, contrairement à la légende, que c'est beaucoup plus compliqué que ça, que la paix a ses déterminants qui vont chercher hors de la guerre, leur véritable nature. Moi, j'appelle ça la dignité, le respect, la liberté, ça, ce sont des valeurs de paix qui ne sont pas le simple envers de la guerre, parce que quelquefois, il faut la guerre pour conquérir la dignité, pour conquérir la liberté, pour conquérir le respect. C'est important.
Et puis, parfois mener la guerre pour avoir la paix.
Exactement.
Et gagner la guerre.
Exactement. D'ailleurs, vous savez, dans le langage commun, on ne s'y trompe pas. Quand vous dites à quelqu'un « foutez-moi la paix » ou « fichez-moi la paix », oui, ça ne veut pas dire oui, « donnez-moi le respect, la liberté, la dignité, etc. », ça veut dire baisser les armes et baisser les poings, quoi. Et puis, il y a une deuxième idée encore derrière tout ça. Ça veut dire qu'il faut rechercher ailleurs le vrai terreau de paix. Et c'est ça qui est très important. Parce que, dans le fond, jusqu'à un personnage, je ne sais pas si vous allez le sortir de votre chapeau, mais moi qui me fascine, qui est Kofi Annan,
oui,
et puis son prédécesseur, Boutros Ghali, qui tous les deux ont dit...
Secrétaire général des Nations Unies.
Voilà, qui ont tous les deux dit, attendez, vous ne pourrez trouver véritablement de paix que dans la sécurité humaine. Et donc vous voyez qu'on prend un chemin tout à fait différent. Alors, peut-être que ça va contrarier certaines personnes, mais je le dis, quelquefois, il faut faire la guerre pour avoir la paix.
Et l'esprit munichois, alors un étudiant vous pose la question, monsieur Badi, professeur, c'est quoi l'esprit munichois, de quoi parle-t-on?
Oui, les étudiants ne disent plus professeur.
Ah, il vous appelle comment, Bertrand? Non, monsieur
Oui, oh, Toto
Non, je ne crois pas.
Enfin, non, vous avez raison. Mais, je veux dire, la question est effectivement fondamentale, mais... l'esprit munichois, je suis légèrement agacé quand on me sort cette formule. Pourquoi? Ça, c'est quand même important de le dire. Vous savez, l'histoire, c'est pas la SNCF. Ça vous offre jamais des allers-retours. Ça vous offre des allers simples. Il n'y a jamais de retour. C'est-à-dire, le contexte de Munich, c'était 1938, et le contexte de 1938 n'a absolument rien à voir avec celui de 2026, de 2024, de 2022, ou je ne sais quoi. Il ne faut pas...
Un mot sur le contexte quand même de 38 pour qu'on comprenne votre agacement. 38, c'est Daladier Chamberlain, le Premier ministre britannique et le président du Conseil français, qui vont à Munich et qui cèdent à Hitler ce qu'ils désirent.
On est d'abord dans un contexte qui est un contexte européen, légèrement euro-américain, mais les États-Unis étaient encore très loin en 1938. On est à l'intérieur de l'espace européen. Aujourd'hui, on est dans un espace mondialisé. Il se passe quelque chose aujourd'hui dans le Golfe. Ça a une répercussion immédiate sur l'économie finlandaise, néo-zélandaise ou botswanaise. Il ne faut pas l'oublier. C'est déjà très différent.
Oui, bien sûr.
Deuxièmement, on est encore dans une logique redoutablement simple de rapport de puissance. On est dans une logique vraiment westphalienne, où vous avez 4 ou 5 États européens qui sont en situation de rapport de force. Et c'est ce rapport de force qui fera la décision. Et le grand erreur des pacifistes de l'époque, et d'un Chamberlain en particulier, un petit peu Daladier, mais surtout Chamberlain, c'était de ne pas regarder en face ce rapport de force, ce rapport de puissance, et le danger qu'il y avait de laisser la puissance allemande se reconstituer jusqu'à un seuil où elle sera inévitablement lâchée dans la bagarre. Aujourd'hui, la puissance ne fait plus la loi. Regardez dans le Golfe, qui fait la loi? C'est pas le plus puissant. Et tout ça, ça s'est déréglé avec les guerres de décolonisation. À chaque fois, c'est le faible qui a gagné. C'est le faible qui a gagné dans toutes les guerres de décolonisation, sans aucune exception. Et c'est le faible qui a gagné dans toutes les guerres d'intervention, Vietnam, Irak, Afghanistan, Somalie, on pourrait continuer. Donc, tout ceci montre que c'était plus la même chose, et pour une raison très simple. C'est qu'aujourd'hui, les guerres et les relations internationales en général sont marquées par une très forte appropriation sociale. C'est-à-dire, les sociétés, les opinions sont les acteurs autonomes, qui ne sont pas des États, jouent un rôle très important, ce qui n'était pas le cas au moment de Munich.
C'est l'un de vos grands sujets d'études et d'apport aussi, un théorique aux relations internationales. On y reviendra dans les temps plus récents, mais si à un moment donné où Munich était encore dans toutes les têtes, c'est bien au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On a parlé ensemble de la SDN. Il est temps maintenant de parler de l'ONU. Ça sera l'objet de notre prochain épisode. Paix, anatomie d'une promesse est un podcast original de France Inter.